On va revenir sur ce qui se passe avec l'Iran présentement. Il y a beaucoup de craintes dans la population, autant ici qu'ailleurs dans le monde. Il y a même des gens qui parlent que c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Il y a des spécialistes qui ont qualifié l'assassinat donc de jeudi dernier du puissant général iranien Qassem Soleimani d'événement qui a une plus grande ampleur que l'assassinat d'Oussama Ben Laden et de al-Baghdadi, le dirigeant de l'État islamique. Oui. Les gens pensent que ça a une plus grande ampleur. Moi, je me dis, c'est peut-être parce que c'était le personnage en tant que tel, Qassem Soleimani, le nom était moins connu qu'Oussama Ben Laden et al-Baghdadi. Fait que j'ai comme fait, ah, OK, ça a une plus grande ampleur. J'avais de la misère à le croire. Mais après ça, en lisant là-dessus, je me rends compte qu'effectivement, ça a une ampleur assez importante. Là, il y a pas tous les spécialistes qui s'entendent pour dire que c'est plus important ou moins important que les deux autres. Mais quand même, il y a eu des développements dans les derniers jours encore. Alors, pour aller faire le point avec tout ça, on va rejoindre à l'instant Valérie Beaudoin. Elle est chercheure associée à la chère Raoul Dandurand et chroniqueuse politique américaine pour Cogeco. Valérie, bonjour.
Bonjour.
Valérie, on va revenir un petit peu dans le passé aussi pour refaire l'histoire depuis le début. Alors, tout ça a commencé avec une attaque contre l'ambassade américaine à Bagdad. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Oui, il y avait cette attaque de l'ambassade justement parce qu'il y avait eu des représailles américaines à la suite de l'assassinat dans des frappes justement de ces milices qui sont financées par l'Iran en Irak d'un Américain. Alors là, on avait attaqué l'ambassade en représailles. C'était vraiment une situation d'escalade pendant la période des fêtes. Et là, ce qu'on a décidé de faire pour les Américains, on avait plusieurs options sur la table. L'option la plus extrême, c'était de tuer le général Soleimani qui, lui, aurait financé et coordonné plusieurs attaques envers les Américains, mais surtout, la justification en ce moment, c'est de dire qu'il y avait d'autres attaques contre des intérêts américains, mais aussi des vies américaines à l'étranger qui étaient planifiées. Donc, c'est pourquoi on a décidé de le cibler et de l'assassiner, ce que d'autres présidents avaient choisi de ne pas faire.
C'est ça l'affaire, c'est que comme il y a plusieurs personnes qui ont souligné le fait que si ça avait été un autre président que Donald Trump présentement à la tête des États-Unis, peut-être que la décision aurait été différente. Là, évidemment, on peut pas prédire ce qui serait arrivé si c'était pas lui qui était là. Mais les gens trouvent, il y a certaines personnes qui trouvent qu'il y a eu la gâchette un petit peu trop rapide, mettons, sur l'action, là.
Oui, puis je vous entendais parler de l'impact versus Ben Laden ou al-Baghdadi, puis je dois dire que je suis quand même d'accord sur l'impact concret que ça peut avoir, parce que oui, Ben Laden, oui, al-Baghdadi, là, pour faire le parallèle, qui était le leader de l'État islamique, c'était des gens qui sont connus aux États-Unis, c'était le visage du terrorisme, alors vraiment, c'était symboliquement, c'était très, très fort, mais là, c'est quand même le numéro 2 d'un autre pays qui a été assassiné par des Américains. C'est comme un peu, si on voulait faire le parallèle, de dire qu'un Mike Pompeo, secrétaire d'État, était assassiné par les Iraniens à l'étranger.
Okay.
C'est un peu du jamais vu. C'est le fait qu'il était vraiment lié au gouvernement iranien qui fait que c'est une attaque directement contre un pays qui sent là, qu'on a assassiné l'un des leurs. Alors, c'est certains qui veulent se venger. Ça, c'est la première des choses. Et dans le passé, il y a Bush et Obama qui avaient ça dans leurs options finalement de tuer Soleimani parce que c'est quelqu'un qui est suivi par les services de renseignement américains depuis plus de 10 ans. On le sait qu'il a commandé d'une façon ou de l'autre plusieurs meurtres d'Américains, plusieurs attaques contre des cibles américaines au Moyen-Orient parce que c'est lui qui dirigeait toute la politique étrangère de l'Iran, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, que ce soit au Liban. Donc, il était extrêmement important. Il y avait beaucoup d'alliés au Moyen-Orient et eux avaient cette option-là. Ils ont fait le pour et le contre avec leurs conseillers Bush et Obama, en disant « OK, on peut le tuer, c'est quelqu'un qui va peut-être tuer d'autres Américains dans le futur, qui l'a déjà fait, mais ça va être quoi nos conséquences? Combien de vies américaines vont peut-être être tuées, être perdues plutôt? Puis est-ce qu'on va devoir entrer dans une autre guerre au Moyen-Orient après l'Afghanistan, après l'Irak? » Ils ont fait le calcul et ils se sont dit « Ben écoutez, même si c'est quelqu'un qui mériterait d'être assassiné, on le fera pas parce que ça pourrait coûter la vie à trop d'Américains et aussi coûter des milliards de dollars en entrant dans un autre conflit armé. » Ça va déstabiliser la planète, ce qu'on voit peut-être dans les cartes là, pour ce qui s'en vient.
Et d'ailleurs, ce qui est particulier, c'est que Donald Trump a été rattrapé un petit peu par des tweets qu'il avait fait entre 2011 et 2013, au moment où c'était Barack Obama qui était président des États-Unis.
Oui.
Il avait dit genre, ah, vous allez voir, Barack Obama, pour se faire réélire, va partir en guerre avec l'Iran. Bon, tu sais, en voulant dire que c'est vraiment juste pour une réélection qu'il allait faire ça. Et par hasard, il y a une réélection qui s'en vient bientôt là, aux États-Unis.
Oui.
C'était un petit peu spécial.
Les écrits restent, que ce soit sur Twitter ou ailleurs, il y a toujours un tweet qui ressort. Il y a même une vidéo qui est ressorti de Donald Trump où on l'entend dire « Écoutez, c'est quelqu'un de faible, Barack Obama, il ne sait pas comment négocier, il ne sait pas comment gérer la situation avec l'Iran. Donc, ce qu'il va faire pour se faire réélire, je crois qu'il va entrer en guerre avec l'Iran simplement pour des motifs électoraux. » Et là, comme de raison, on est en janvier 2020, l'élection est en novembre prochain. Excusez-moi l'expression anglaise, mais la question de timing, ça semble pas mal à ce qui a déjà critiqué par le passé. Il va se défendre en disant, ben écoutez, là, il y avait une menace imminente pour des Américains, j'ai agi et j'étais en droit de le faire.
Et là, on va parler de la réponse de l'Iran un petit peu, parce que là, évidemment, il y a une guerre de mots pas mal depuis les derniers jours. On a même parlé de l'arme nucléaire. L'Iran a promis aux États-Unis une réponse qui sera, puis là, je vais lire, sera assurément militaire et contre des sites militaires américains. À quoi on peut s'attendre là, pour la suite?
Je voudrais que les gens vont être sur le pied de garde là, dans tous les bases militaires à l'étranger. D'ailleurs, les bases militaires qui sont partagées avec peut-être des intérêts de d'autres pays européens ou autres. Alors, ça va quand même être intéressant de voir comment toute cette coordination va se faire parce que on n'est plus là pour être au Moyen-Orient pour se lutter contre l'État islamique ou autre. Les gens vont être sur le pied d'alerte pour protéger les bases américaines parce que c'est les cibles, les premières cibles. D'ailleurs, on a dit aux Irakiens de se tenir loin des bases, justement pour pas eux être tués. Alors, c'est pour vous dire à quel point c'est les cibles qui sont prévues. Mais je vous dirais qu'à la différence, les Iraniens ont visé des cibles militaires, tandis que Trump, lui, selon ses tweets, va viser des sites autant militaires que peut-être culturels. Ça, c'est vraiment ce qui fait le débat en ce moment, c'est de dire que lui va attaquer des sites culturels iraniens, et ça plaît pas beaucoup.
Et quand on parle de jouer avec la carte nucléaire, là, présentement, bon, eux autres, ce qu'ils ont dit, l'Iran, ils ont annoncé hier qu'ils vont peut-être accélérer le processus pour réduire ses engagements internationaux en la matière, en matière nucléaire. Est-ce que c'est une menace qui est un petit peu faite dans les airs, ça, ou c'est à prendre au sérieux?
Mais je pense que c'est quand même à prendre au sérieux. De là à dire qu'ils vont développer l'arme nucléaire dans les prochaines semaines, ça serait peut-être exagéré, mais on le sait, il y a eu un accord qui a été conclu avec Barack Obama en 2015. L'accord sur le nucléaire, après des années de négociations, c'est là qu'on avait vu le plus de rapprochement entre l'Iran et les États-Unis. Il y avait encore les sanctions économiques, mais ça allait quand même bien. Ça a été déchiré par Trump au début de sa présidence. Donc, déjà là, c'était, je vous dirais, un accord qui était très, très mince parce qu'il tenait juste avec les Européens et l'Iran. L'Iran, ce qu'il a dit, écoutez, ce que je menace de faire depuis longtemps, c'est de pas me retenir par les contraintes de cet accord-là. Ben, écoutez, avec l'agression que je viens d'avoir des États-Unis, ben, on va pas, nous, respecter l'accord, car eux respectent pas non plus leurs engagements. Ils l'ont pas fait par le passé. Alors, ils vont continuer, peut-être, d'enrichir l'uranium et de faire certaines démarches. Mais ils ont dit qu'ils allaient quand même permettre à des inspecteurs internationaux de venir visiter les installations. Mais c'est leur démontrer, écoutez, nous, on n'entend pas à rire. Vous avez attaqué l'un des nôtres. C'est un acte d'agression qu'on considère. On va se venger. Et non seulement on va se venger, mais nous, on va continuer de s'armer. Puis on va continuer d'augmenter notre puissance. Parce que c'est vraiment de cette façon-là qu'eux pourront après ça négocier peut-être certaines choses à l'international. C'est un peu c'est pour faire le parallèle, ce que la Corée du Nord a fait, là. Ouais. C'est de vouloir développer l'arme nucléaire pour être dans la cour des grands. Ouais. Je dirais même à la table des grands pour se faire entendre, se faire écouter. L'Iran va vouloir faire la même chose puis dire, écoutez, on n'entend pas à rire avec tout ce qui s'est passé.
Et Valérie, en terminant, j'ai lu beaucoup l'expression « on s'en va en guerre, nous sommes en guerre » sur les médias sociaux, entre autres, mais c'est quelque chose qui est exprimé beaucoup par les gens. Ça semble être une crainte qui est réelle. Pour affirmer la phrase « on est en guerre », qu'est-ce que ça prend comme élément exactement?
Oui, si on parle du point de vue politique, normalement, parler peut-être des frustrations de certains Américains, c'est que pour être en guerre, si on déclare la guerre à une autre nation, ça passe par le Congrès. Donc, normalement, c'est quelque chose qui va être voté. Et là, ça n'a pas été le cas. Et c'est pour ça que les démocrates sont extrêmement fâchés contre le président pour faire changement. Mais le président Trump, ce qu'il dit, c'est quand il y a une menace à la sécurité nationale, il a le pouvoir, lui, d'attaquer une autre nation ou un autre intérêt s'il y a une menace imminente à la sécurité. C'est ce qu'il a fait. Alors, on pourrait dire que par son geste, les États-Unis vont peut-être être en guerre. De quelle façon ça va se faire? Je pense pas que ça va être une guerre, je suis pas spécialiste dans la matière, là, mais je pense pas que ça va être une guerre conventionnelle comme on voyait par le passé. Est-ce que ça va être une guerre justement par le Hezbollah qui est financé par l'Iran, par d'autres intérêts? Est-ce que c'est une guerre qui va se transporter par des attaques en sol américain? Il y en a beaucoup qui craignent que ça soit ça. Je pense que les Américains aussi ont le traumatisme de l'Irak, hein, parce que sous de faux prétextes, les Américains sont entrés en guerre avec l'Irak. La guerre en Afghanistan, ça dure depuis des années. Alors là, ils ont peur d'entrer dans une autre guerre, qu'il y a d'autres vies américaines de perdues et aussi que ça soit sous de faux prétextes. Alors vraiment, là, c'est extrêmement complexe comme dossier. Puis on ne sait pas dans quelle direction ça va aller, tout ça. On le sait qu'il va y avoir une vengeance des Iraniens. On ne sait pas quand et on ne sait pas comment.
On va suivre ça de près. Valérie, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Avec plaisir. Bonne journée.
Merci, bonne journée. Valérie Beaudoin est chercheure associée à la chaire Raoul Dandurand et chroniqueuse politique américaine pour Cogeco. Je vais vous dire, ça a comme pris du temps un petit peu avant que je prenne l'ampleur. Que je prenne vraiment la mesure de ce qui est arrivé la semaine dernière. Parce que c'était un dirigeant dont le nom était moins connu du public. Ça avait été, en fait, le conflit avec l'Iran avait moins porté sur l'individu en tant que tel que sur les idées. Pour le cas de Ben Laden ou al-Baghdadi, on connaissait les visages. Exact. On avait le, tu sais, il y avait vraiment un visage à la guerre ou aux idées, là, qu'on confrontait. C'est pas le cas avec cette histoire-là. Fait que quand je lisais que c'était d'une ampleur semblable et même plus grande que l'assassinat de Ben Laden, je me disais, wow, on n'est pas un peu trop, tu sais. Mais là, je me rends compte.
Ben c'est ça, c'est, je prends le pouls, là, de la chose. Son parallèle était bon. Là. C'est comme si tu vises un numéro 2 d'un gouvernement. C'est le numéro 2. Puis j'ai lu un peu sur lui, parce que je dois t'avouer, je n'étais pas très familier non plus avec lui. Là. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est vu comme un martyr de la révolution iranienne, la révolution religieuse. C'est quelqu'un qui est vraiment vu. Présentement, là, en Iran, les gens sont en deuil. Là. Les gens sont en deuil. Il y avait des sondages qui avaient été faits dans les dernières années sur le taux d'acclamation, le taux d'approbation envers cette personne-là. C'était 83%. Des sondages assez sérieux qui avaient été menés même par des universités américaines en Iran même. Même à Montréal, il y a des gens de la diaspora iranienne qui sont sortis pour dénoncer ça.
C'est vrai.
Parce qu'ils ont dit, là, ce que vous avez fait, en fait, c'est l'inverse de ce que vous vouliez faire. Vous vouliez déstabiliser le régime, mais à la place, ce que vous avez fait, c'est unir à peu près tous les Iraniens de différentes factions politiques ensemble contre les États-Unis. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut voir là simplement un geste politique? Parce que oui, c'est sûr que pour ses partisans, Donald Trump vient de gagner des points, là, parce qu'il a démontré, moi, je suis le commandant en chef de l'armée, je suis capable d'aller de montrer ma force, de montrer que les États-Unis sont encore une force militaire de premier plan dans le monde. Mais sur le plan mondial, sur le plan régional au Moyen-Orient, il va peut-être de déstabiliser la région pour les prochaines années.
Ben, c'est ça l'affaire. Et là, on peut s'attendre à quoi pour la suite? Maintenant qu'on prend vraiment, qu'on prend la mesure de l'ampleur de ce qui est arrivé, est-ce que ça vous inquiète? En passant 25-226, est-ce que ça vous inquiète ce qui est arrivé la semaine dernière? Est-ce que vous réalisez, en fait, que c'est quand même assez grave ce qui s'est produit et que ça pourrait avoir des conséquences pas mal plus graves? Moi, je pense que ça va prendre un certain temps avant qu'on soit vraiment conscientisé à quel point c'est gros. Parce que moi, ça m'a pris vraiment, vraiment du temps. Et là, j'écoute les spécialistes depuis 3-4 jours, puis je me rends compte qu'effectivement, c'est beaucoup, c'est pas mal gros. Et ça pourrait surtout avoir des conséquences très, très importante, là. Vraiment importante.
Par contre, si, tu sais, quand l'Iran dit on va répliquer, puis de façon militaire, puis tout ça, est-ce que c'est vraiment crédible? Il y en a qui font marquer 25-226, que c'est des bluffers, bluff, un peu comme en Corée du Nord. Tu sais, si tu compares les forces militaires iraniennes contre les forces militaires américaines, il n'y a rien du tout, ça n'arrive même pas à la cheville. Ouais. Donc, c'est peu probable. Là où c'est vraiment inquiétant, là, puis c'est vraiment là que ça me touche peut-être un petit peu plus, c'est les menaces par la suite que Donald Trump a fait en lien avec ça, en lien avec des sites culturels. Parce que tu sais que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de scandales en lien avec justement des groupes extrémistes islamiques qui détruisaient, par exemple, des bouddhas en Afghanistan, des endroits millénaires, des sites archéologiques inestimables. On sait que la guerre en Irak aussi, à Bagdad, a détruit un paquet d'affaires qui dataient de l'Antiquité de milliers d'années. Puis là, d'aller du côté des États-Unis, tu sais, qui est un peuple civilisé, dire on va aller toucher des sites culturels importants en Iran. L'Iran, c'est la société perse, là, c'est des milliers d'années d'histoire aussi, d'une valeur qui n'a pas croyable en termes d'histoire d'archéologie là-bas. Puis dire qu'on va aller viser ça. Ça, je trouve que c'est un peu jouer le jeu des terroristes, puis aller jouer sur le même terrain un peu. Tu sais, aller avec des sites militaires, je peux comprendre, mais dire on va aller viser des sites culturels. Puis là, tu risques encore de mettre. Imagine le CV, je sais pas moi, un site important, un site culturel important, que ce soit sur le plan religieux ou culturel en Iran, comment il va mettre encore plus d'huile sur le feu de la colère des Iraniens.
Exactement, c'est ça l'affaire. C'est que là, tu vas aller les toucher sur un point qui est très, très sensible. Puis là, d'après moi, il n'y aura plus de règles après ça. Là. C'est on vise ou on peut viser, puis c'est tout. Puis Donald Trump est très bon dans les guerres de mots aussi. Hein. Il aime ça beaucoup, faire des menaces verbales. Il aime ça laisser savoir. En fait, il aime ça que l'ennemi sache exactement où il s'en va et jusqu'où il peut aller.
Lui aussi, c'est peut-être un bluff, Ramat.
C'est ça, j'étais pour dire. Mais en même temps, c'était pas un bluff qui tue le général. Là. Je veux dire, il l'a fait pour vrai. Là. Fait qu'une fois que ça a été fait, est-ce qu'on prend au mot chacune des paroles qu'il va dire? Je pense qu'on n'a pas le choix. Parce qu'il a été capable d'aller tuer quand même le général iranien, puis personne s'attendait à ça. Mais à partir de maintenant, est-ce que tout ce qu'il dit, c'est vrai? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est ce qu'il va faire? Là, on ne sait pas, mais c'est ça qui est tough avec les guerres de mots. C'est vraiment, vraiment difficile. Parce que d'un côté, l'Iran dit des choses. Est-ce qu'il bluffe? Est-ce que c'est vrai? On ne le sait pas. Puis de l'autre côté, le président américain dit des choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ben, tu te prépares au pire. Puis ce qui arrive quand tu te prépares au pire, ben, tu sais.
Puis la question que je me pose, puis je suis loin d'être un expert, mais c'est les Américains pendant le 20e siècle ont eu souvent tendance à s'introduire dans les affaires au Moyen-Orient. Les talibans, il y a une bonne partie qui vient de l'initiative américaine. Ça a été installé, entre autres, grâce aux Américains. Saddam Hussein, même affaire en Irak. Puis on récoltait un petit peu ce qu'on semait, que ce soit à cause des talibans, Saddam Hussein ou Osama Ben Laden, on sait ce que ça a donné.
Ouais.
Alors la question que je me demande, est-ce qu'on, quand je dis on, évidemment pas nous autres, là, mais est-ce que du côté des États-Unis, on est en train de se magasiner une tragédie?
Oui.
un attentat terroriste de grande envergure.
Exactement.
Parce que les méthodes qui vont être utilisées par des gens qui vont être fâchés là-bas seront pas nécessairement clean, là.
Non, puis des pro-iraniens, je veux dire, il y en a, il peut en avoir aussi aux États-Unis, là, puis il peut en avoir un peu partout dans, tu sais, ces gens-là. Si, même ici au Québec, il y a des gens de l'Iran qui ont dit, hey, ça, c'est gros ce que vous avez fait là. Imaginez quelle sorte d'idée qu'il peut y avoir dans la tête de certaines personnes qui sont présentement à l'intérieur des murs des États-Unis. Fait que c'est sûr que c'est inquiétant, c'est ce genre de choses-là. D'ailleurs, au 25-226, vous êtes plusieurs à réagir. Michel dit, moi, ça m'inquiète beaucoup. Kathleen dit, quand j'ai entendu la première fois, ça a été la même réaction de vous. C'est qui, lui? Mais finalement, en lisant tout sur lui, ben, ça s'annonce pas vraiment très, très beau pour l'avenir. Annie dit, la destitution puis sa presse. Il y a Pierre qui dit, Trump a donné un coup de pied dans un nid de guêpes. Alors oui, c'est inquiétant. Quelqu'un dit, c'est très inquiétant parce qu'il est vraiment temps que les États-Unis arrêtent de provoquer le monde. On a des exemples comme l'Irak, la Libye, l'Afghanistan ou le monde occidental. Et puis, on a mis tout un peuple on a ébranlé tout un peuple. C'est sûr, mais là, en même temps, les États-Unis, c'est toutes les actions qui ont été faites dans le passé, c'est pas tout sur le dos de Donald Trump, là. Mais celle-là, écoutez, force est quand même de constater qu'il a pris une action qui avait été, que les autres présidents avant auraient pu faire puis qui ont décidé de ne pas faire. Ça, c'est la réalité aussi quand même. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour la suite? Bon, on va suivre ça de près, mais je pense qu'il faut pas prendre ça à la légère. Je pense que ça a été, la première fois que c'est sorti, on a peut-être tous eu le même réflexe, à moins que vous suiviez le conflit en Iran de très, très près, là. Mais on a tous eu le même réflexe de dire, ah, OK, c'était pas aussi gros que Ben Laden, mettons, parce qu'on le connaissait pas. Mais je pense que c'est une erreur qu'on a faite, puis il faut prendre ça très au sérieux.